La diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous, Magdalena Hrozinkova au micro vous remercie d'être à l'écoute de notre programme qui sera aujourd'hui très littéraire. Le 3 juin était présenté à Prague en lecture scénique au Théâtre pour enfants mineurs ainsi qu'à l'Institut français de Prague, La vie en gros de Michael Olivier paru chez Gallimard en 2001. Livre pour adolescents, c'est d'abord le récit de cette période trouble de la vie où le corps se modifie et où un physique désavantageux devient un handicap dans le monde cruel de l'école. Anna Kubishta a rencontré Michael Olivier, venu présenter son ouvrage et assister à la lecture scénique. A noter également que son livre a fait l'objet d'une adaptation pour la télévision.
Culture sans frontières.
Je vais déjà commencer par vous demander, Michael Olivier, vous demander de présenter La vie en gros, qui est présentée en fait ici à Prague dans le cadre d'une lecture scénique.
Alors La vie en gros est un roman qui met en scène un adolescent différent des autres. Voilà. Il se trouve que sa différence est qu'il est gros, donc il est vraiment un adolescent obèse. Ce qui lui pose pas beaucoup de problèmes au début du livre dans sa vie, parce qu'il est plutôt quelqu'un de joyeux, qui juste aime manger, et a une gourmandise communicative, puisqu'il veut devenir cuisinier plus tard. Sauf que il tombe amoureux d'une fille, et à partir de ce moment-là, il découvre qu'en voulant plaire à quelqu'un, il faut qu'il se plaise à lui-même, et là, il voit qu'il a un problème avec son corps, et là, sa vie va changer. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il essaye de maigrir pour se plaire à lui-même et plaire à Claire, la fille qu'il a en vue. Et voilà, et c'est un roman qui permet au lecteur de rentrer dans la peau d'un adolescent avant tout et d'un adolescent différent des autres. Et c'est tout un cheminement psychologique et humoristique sur l'acceptation de soi-même.
Comment est née en fait l'idée de ce roman? Est-ce que je sais pas, vous êtes inspiré de quelqu'un que vous avez rencontré par exemple?
Oui, je suis inspiré de quelqu'un que je connais très bien, qui est moi-même quand j'avais 15 ans. C'est un roman très autobiographique. C'était pas prévu au départ, c'est-à-dire que je voulais parler de l'obésité parce que c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie et surtout quand j'avais 15 ans et c'était sans doute l'âge où c'était un problème le plus douloureux. Donc j'avais envie de traiter ce sujet-là et pour le traiter le plus sincèrement possible, j'ai beaucoup emprunté à ma propre adolescence. Et à l'arrivée, quand j'ai terminé le livre, je me suis dit « Oh, ça ressemble quand même beaucoup à ma vie ». Donc Benjamin, voilà, c'est pas moi, mais il me ressemble beaucoup. Et les personnages autour ressemblent beaucoup à certains que j'ai croisés au lycée à l'époque. Voilà, c'est vraiment un roman très autobiographique.
Il est présenté ici, en fait, à Prague, dans le cadre d'une lecture scénique. Alors au moment où on enregistre, vous n'avez vu pour l'instant qu'une version de la lecture scénique donc à l'Institut qui a été présentée aux écoles, mais il va être également donné au Théâtre Minor, qui est un théâtre pour les jeunes et pour les enfants. Qu'avez-vous pensé de la version tchèque de votre ouvrage?
Ça m'a beaucoup plu, hein. Très sincèrement, ça m'a beaucoup plu. Alors, bien que je parle absolument pas tchèque, j'ai bien repéré les scènes le travail qui a été fait d'adaptation m'a paru très, très habile. Voilà, les scènes qui ont été gardées sont les bonnes et on suit l'intégralité du livre alors que l'intégralité du texte n'est pas lue. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour, l'émotion est là. Enfin, exactement ce que moi j'ai voulu faire, c'est-à-dire un roman qui ressemble à la vie de tous les jours, c'est-à-dire des moments heureux, des moments tristes. Tout ça mélangé, c'est pas un drame, c'est pas une comédie début à la fin, c'est un mélange des deux. Et c'est vraiment ça que je voulais faire dans le livre et que je retrouve sur scène. C'est à la fois touchant et très amusant. Donc moi j'étais très content de voir ça. Puis c'est très touchant de voir ces personnages qui ont, pour certains, existé dans ma vie il y a maintenant un bout de temps, qui sont devenus un roman, qui sont en France devenus un film, puis maintenant qui prennent vie sur scène à Prague. Enfin, c'est une magnifique aventure pour moi.
C'est différentes incarnations, en fait, finalement.
Oui. Et j'ai presque envie de... Là, j'aurais envie de voir ce spectacle avec les copains de l'époque qui, eux, sont dans le bouquin, qui ne savent pas, d'ailleurs, que j'ai perdu de vue. Mais voilà, il y a quelque chose d'un peu magique de voir des scènes à Prague aujourd'hui... 20 ans après, c'est assez magique, mais c'est toute la magie des livres, hein, et des livres mis en scène, et de la littérature, du cinéma, du théâtre, voilà, c'est cette magie-là, je l'ai toujours retrouvée ce matin.
Vous avez eu des réactions, des retours d'ados, justement, peut-être, qui aussi, justement, ont souffert voilà, de la même chose que votre personnage.
J'ai rencontré énormément d'adolescents autour de ce livre-là. C'est un livre qui est quand même sorti maintenant il y a une dizaine d'années en France, hein, qui est mon plus gros succès. Et tout au fil de ces années, j'ai rencontré beaucoup de lycéens, beaucoup de collégiens, des adultes aussi qui me parlent du livre. J'ai reçu beaucoup de courriers. Alors, pas mal de jeunes qui sont concernés directement par le problème d'obésité, notamment des témoignages très touchants. Une fois, c'était une grande assemblée, il y avait 300 adolescents qui me posaient des questions. Il y en a une qui a pris la parole, qui était très grosse, qui était très émue, et qui m'a dit qu'elle s'était retrouvée dans le livre. C'était très bouleversant. Mais aussi, des jeunes qui n'ont absolument pas ce problème-là, mais qui se sont reconnus dedans. Un jour, dans une classe où j'ai été de lycéen, la plus belle fille de la classe, la plus mince, m'a dit « mais je me suis retrouvée dans Benjamin ». C'était sidérant parce que, voilà, on a tous, qu'on soit beau, grand, petit ou maigre, on a tous un rapport à l'autre complexe, notamment à l'adolescence, et c'est ça finalement qui est le cœur du livre. Ça passe par le biais de l'obésité.
Mais ça aurait pu être un autre complexe.
Absolument, c'est vraiment la difficulté de l'image qu'on projette à l'adolescence et du regard de l'autre.
J'ai lu quelque part que quand vous étiez petit, vous fuyiez les livres. C'est quand même paradoxal, finalement. Par d'autres chemins, finalement, vous êtes arrivé à la littérature, puisque vous avez travaillé dans le cinéma également. Et alors, vous avez une bibliographie importante, en plus, dans tous les genres. Comment êtes-vous arrivé, finalement, à la littérature, puisque les livres, c'était des rétro beaucoup plus tôt?
Je parle de tout ça dans un livre qui s'appelle « Celui qui n'aimait pas lire », qui est une autobiographie, en fait. Oui, quand j'étais jeune, j'assimilais la littérature à la scolarité. Et je rejetais les deux en bloc. Voilà, je réfléchissais pas plus que ça. J'étais jeune. Il y a quelques livres que j'ai lus, parfois forcés par des profs. Certains m'ont plu, mais m'ont pas donné le goût de la littérature. Voilà, pas donné le goût d'en lire un autre. Donc, moi, mon goût de la narration, on va dire, d'aller essayer de chercher dans le travail d'un artiste pourquoi il raconte cette histoire et voilà, comment il le fait, c'est venu par le cinéma. Voilà, ma grande passion, ça a été le cinéma. Quand j'ai eu 15-16 ans, je suis devenu un vrai cinéphile, j'allais voir tous les films, je faisais des fiches sur réalisateurs, et c'est ça qui m'a donné envie de raconter des histoires. Donc au départ, j'avais pas du tout envie d'écrire des livres, puisque je n'aimais pas les livres, et que j'avais un rapport complexe à eux, c'est-à-dire à la fois de les fuir, en même temps ils étaient un peu sacralisés, je les redoutais, enfin comme beaucoup de jeunes, hein, parce qu'on me le présentait, la littérature, comme une chose sacrée et intouchable. Alors c'est exactement l'inverse, la littérature, il faut se plonger dedans, elle est faite pour le lecteur. Et donc, grâce au cinéma, j'ai découvert que je voulais raconter des histoires, essayer d'attraper les choses qui me touchaient dans le monde, dans la vie, qui passent si vite, et d'en faire quelque chose, un film, dans mon idée à l'époque, que j'allais partager avec d'autres. Voilà, c'était vraiment un pont jeté vers l'autre. Et puis, une fois que j'ai quitté la scolarité, j'ai découvert que les livres pouvaient m'amener le même plaisir que les films. À partir du moment où on me demandait plus de faire un résumé ou un travail analytique, je trouvais le plaisir brut de lire. On raconte une histoire et j'adore les histoires. Tout le monde aime les histoires. Et là, j'ai compris que ce que je voulais, c'était pas seulement faire des films, mais voilà, être un raconteur d'histoires. Et donc, j'ai décidé petit à petit d'essayer d'être romancier. Donc, je suis romancier et scénariste. Je fais les deux. Voilà, je raconte des histoires.
Et alors, ce que je disais, dans tous les genres, c'est un besoin farouche, un peu de mélanger, de pas se cantonner finalement à un seul genre dans votre vie.
Ça correspond aussi à mes goûts de lecteur. Je lis tout, je mets tout ce qui me plaît. C'est-à-dire dans des genres très différents, il y a des choses que j'aime pas. Je lis de la science-fiction, du polar, des romans intimistes. Voilà, pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais genre de livres. Il y a juste des bons livres et des mauvais livres. Vraiment, c'est très important pour moi en tant que lecteur et ça l'est en tant qu'auteur. Donc, moi, je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, parce que les éditeurs souvent voudraient bien nous cantonner à un genre, c'est plus facile commercialement, mais moi je ne sais pas le faire. J'ai des idées qui me viennent, que j'attrape dans la vie de tous les jours, par des voyages que je fais, des rencontres, des choses qu'on me dit, parfois une lumière, ça me donne envie d'écrire un livre, selon ce que contient cette envie au départ, qui peut être très peu de choses, une scène, un regard croisé, ben ça m'emmène vers un genre. Et voilà, et je le fais, et je tiens à cette liberté-là.
Pour terminer, donc vous disiez « La vie en gros », c'est un livre qui date d'il y a 10 ans. Alors, pour parler un petit peu juste d'actualité et du présent, est-ce que vous avez des projets là, de publication à venir ?
Oui, beaucoup. Bon, depuis « La vie en gros », il y a eu beaucoup de livres pour la jeunesse et pour adultes qui sont sortis. Là, les prochains, en France, mon prochain livre pour les jeunes, donc pour le même lectorat adolescent, on va dire collégien, lycéen que « La vie en gros », c'est un roman qui sort aux éditions Thierry Magnier au mois d'août, fin août, qui va s'appeler « Le monde dans la main ». Qui est vraiment un peu dans le même esprit que La vie en gros. C'est pour le coup pas de la littérature de genre, mais quelque chose où on fait rentrer dans la tête d'un adolescent. Voilà. Qui aussi est un peu différent des autres, mais pas comme Benjamin, mais pour d'autres raisons. Voilà. C'est le regard d'un adolescent sur le monde. C'est vraiment ça. Et puis au mois d'octobre, j'ai mon prochain roman policier pour adultes qui sort, qui va s'appeler Quelque chose dans la nuit.
Okay, à quelles éditions ?
Alors en France, ça sera l'édition Le Passage.
C'était l'écrivain Michael Olivier au micro d'Anna Kubishta. À noter qu'à Prague, il était accompagné par sa femme, l'écrivaine Viviane Moore, connue pour ses polars historiques. Nous aurons l'occasion de revenir sur son parcours dans une de nos rubriques culturelles à venir. Place maintenant aux particularités de la langue tchèque. Je pense que la nouvelle édition du Tchèque du bout de la langue vous amusera bien, puisqu'il sera question des guignols de la politique tchèque. Guillaume Narguet.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a effectué récemment une visite d'une semaine aux États-Unis. Une visite tout ce qu'il y a de plus diplomatique, au cours de laquelle il a notamment rencontré les représentants de certaines communautés tchèques vivant aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger aussi, ou encore parler affaires avec son homologue américaine Hillary Clinton, sans oublier de se féliciter des excellentes relations entretenues entre Prague et Washington. Bref, une visite sans grand intérêt pour les médias et qui serait vite tombée aux oubliettes si juste avant de quitter le sol américain, le ministre n'avait insulté ses partenaires de la coalition gouvernementale restée à Prague en les qualifiant de
« paca ».
Et c'est donc à ce petit mot difficilement traduisible en français et dont l'usage n'était pas anodin que nous allons nous intéresser pour cette fois. Aristocrate, adepte du baise-main et du pince sans rire, malgré un important défaut de prononciation qui rend certains de ses discours pratiquement incompréhensibles, ancien proche conseiller du président Václav Havel dans les premières années post-révolutionnaires après un long exil en Autriche et en Suisse sous le communisme, le prince Karel Schwarzenberg, actuel ministre des Affaires étrangères, est l'un des rares hommes politiques tchèques à pouvoir, à l'heure actuelle, se permettre d'exprimer ouvertement et publiquement le fond de sa pensée. En utilisant un idiome tchèque très usité, on peut dire que son importante cote de popularité, qui n'a jamais faibli depuis sa première entrée en fonction en 2007, lui offre la liberté de dire ce que la salive lui apporte sur la langue.
Říct, co mu slina na jazyk přinese.
À la fin de son récent voyage aux États-Unis, le chef de la diplomatie tchèque, qui est également le leader de l'un des trois partis composant la coalition gouvernementale, a donc dit ce qu'il avait sur le cœur, comme on dirait plutôt en français, en qualifiant ses collègues de la coalition gouvernementale de
« paca »,
la forme plurielle du mot
« paco ».
Bien évidemment, et comme à n'en pas douter, l'espérer l'intéresser, la déclaration de Karel Schwarzenberg, maître dans l'art de l'usage des bons mots et mots d'esprit, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et a été aussitôt reprise par l'ensemble des médias tchèques. Et même à Prague, les collègues visés s'en sont amusés. Ce petit mot,
Paco,
que l'on pourrait ranger dans le cas présent dans la catégorie des insultes gentilles, tous les Tchèques l'ont déjà entendu et le connaissent. Relativement rares sont pourtant ceux qui l'utilisent. Et paradoxalement, si tous ont une idée de ce que
Paco
signifie, peu savent le définir précisément, et pour cause, le mot possède un sens quelque peu ambigu, en tous les cas assurément pas univoque. C'est sans doute la raison pour laquelle, dans les jours qui ont suivi la déclaration du ministre, toute une série de commentaires et d'analyses du mot ont été publiés dans la presse. Le moment est donc venu de l'analyser également à notre tour. Première constatation,
Paco
ne figure ni dans le dictionnaire de la langue tchèque littérale, qui fait souvent usage de référence, ni dans le pourtant plus récent dictionnaire du tchèque littéral pour les écoles et le public. Il faut dire que le mot n'est apparu dans la langue tchèque qu'il y a une vingtaine d'années de cela. Il s'agit donc d'un terme, encore relativement récent, dont on trouve cependant trace dans les encyclopédies intitulées « Les nouveaux mots de la langue tchèque » et « Ce que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire ». Avant d'être une insulte, et à en croire le dictionnaire des mots étrangers, il semble que
« paco »
désigne d'abord un lama des Andes péruviennes, plus précisément un alpaga, un animal qui donne une laine éponyme et dont le nom binominal en latin est « lama Pacos. Bon, mais même si ce fameux lama Pacos n'était pas un animal spécialement intelligent, ce qui au contraire semble être le cas, ce premier sens n'est pas celui que nous recherchons. Le second sens, argotique cette fois, nous intéresse en revanche beaucoup plus. Un
Paco
peut donc désigner ce que les Tchèques appellent un
Nechika,
soit un gaffeur, un maladroit, mais aussi un
Nemotora,
un lourdeau, un empoté, un
Lupac,
un idiot, quelqu'un de niais, ou encore un
Blasen,
c'est-à-dire un fou, un maboule, un loufoque, un toqué, un timbré. On constate donc que le mot
Paco
peut désigner plusieurs types de personnes à la fois. Et il existe une nuance entre traiter quelqu'un de gaffeur ou d'empoté et de fou ou de maboule. Toutefois, on peut également remarquer que même en français, ces mots de maboule, timbré ou cinglé ne sont assurément pas les pires insultes qui existent. En tchèque, le mot
Paco
englobe un peu toutes ces notions à la fois. Et il s'agit donc bien de ce que nous avons appelé une insulte gentille. S'il fallait le traduire en français, les termes les plus appropriés semblent être ceux de charlot ou de guignol, même si, et pas seulement à la pensée des guignols de l'info, leur usage est sans doute plus péjoratif et mal intentionné que celui de
Paco
en tchèque. Peut-être Karel Schwarzenberg a-t-il alors pensé que ses collègues du gouvernement étaient plutôt et tout simplement des rigolos, une insulte qui peut aussi ne pas en être tout à fait une. Voilà, c'est donc avec les
Paka,
ces guignols rigolos de la politique tchèque, que s'achève ce tchèque du bout de la langue. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Merci à Guillaume pour ce tchèque du bout de la langue. Parmi les livres parus récemment en République tchèque, il y a une biographie de l'écrivain Jiří Mucha, homme dont la vie reflète les méandres de l'histoire européenne du XXe siècle. La biographe de l'écrivain, Jolana Chopovová, n'a pas trouvé d'éditeur pour son livre intitulé tout simplement Jiří Mucha. Elle l'a finalement publié à compte d'auteur. Václav Richter a consacré à ce livre l'émission suivante.
Rencontre littéraire. La vie de Jiří Mucha est une suite d'événements et d'aventures qui forment un roman passionnant. Il a été correspondant de guerre, voyageur, prisonnier, politique, écrivain, mais avant tout homme courageux qui voulait vivre sa vie et a su garder une certaine liberté même sous les régimes totalitaires. Il a vécu entre 1915 et 1991 et sa vie, dont certaines étapes restent voilées de mystère, ne cesse d'intriguer ceux qui l'ont connu et même ceux qui ne le connaissent que par ses livres. Seule l'écrivaine Jolana Chopovová a osé écrire sa biographie. Il lui a fallu 20 ans pour rassembler des témoignages et des documents sur Jiří Mucha. Son livre est une importante contribution à notre connaissance de cet homme fascinant et secret. Jolana Chopovová rencontra Jiří Mucha pour la première fois en tant qu'étudiante de l'histoire du théâtre et du cinéma. Elle lui a demandé une consultation concernant le travail qu'elle préparait pour son séminaire et qui allait devenir finalement sa thèse de doctorat.
Pour moi, c'était une rencontre essentielle parce que sous le régime totalitaire, j'ai compris que la liberté n'était pas une question de conditions extérieures, mais une décision personnelle. C'est ce que Jiří Mucha m'a montré et c'est ce qui m'a permis de respirer et de commencer à me comporter différemment.
L'écrivain Jiří Mucha est le fils du peintre Alphonse Mucha, un des principaux artisans du style Art Nouveau. Né en 1915 dans une famille où le patriotisme tchèque est considéré comme une des vertus fondamentales, Jiří n'arrivera jamais à renoncer à ce petit pays au centre de l'Europe qui est sa patrie, bien que ce petit pays le fasse souffrir et le soumette à des épreuves difficiles. Cosmopolite, grand voyageur, il pourrait s'établir sans problème en Grande-Bretagne ou ailleurs dans le monde, et pourtant il revient toujours à sa maison de Prague, parce que briser les liens avec sa patrie serait pour lui cesser d'être lui-même. Il dira « Je n'ai jamais choisi le chemin facile, je n'ai pas voulu vivre ailleurs. Quand on est patient, tout arrive. Dans les périodes difficiles, il ne faut surtout pas se laisser pendre. Tout le reste, on peut le supporter. Et après, on se dit toujours « ça valait la peine ». La vie de Jiří Mucha s'achèvera en 1991, après la chute du communisme, au seuil d'une nouvelle époque. Yolana Chopovova regrette de n'avoir pris la décision d'écrire un livre sur Jiří Mucha qu'après sa mort.
En 1992,
lorsque j'ai décidé d'écrire cette biographie, j'ai commencé à rechercher systématiquement les gens qui approchaient déjà du terme de leur vie, et je me suis mise à les interviewer. Certains d'entre eux se sont tellement ouverts à moi qu'ils m'ont prêté leur correspondance, leurs photos, etc. Je me suis lancée selon la méthode classique à la recherche des sources dans les archives, mais certaines archives à l'époque n'étaient pas encore accessibles ou l'accès aux informations était limité.
La jeunesse de Jiří Mucha n'est pas exempte d'erreurs et d'hésitations, hésitant tout d'abord de renouer avec le succès de son père, mais il échoue à l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts à Prague. Il étudie donc la médecine et l'histoire de l'art et se lance dans le journalisme. Vers la fin des années 1930, il s'établit à Paris pour y poursuivre ses études de médecine, et c'est là que la guerre le surprend. Enrôlé en 1939 dans le contingent tchèque d'Agde, il se rend ensuite en Angleterre, entre dans la Royal Air Force et devient correspondant de guerre de la BBC. Cette partie de sa vie lui vaudra la disgrâce des autorités communistes tchécoslovaques après la guerre. Dès 1948, son nom figure sur la liste noire et en 1951, il est arrêté comme espion et condamné à 6 ans de prison et de travaux forcés. Libéré, il exploitera son séjour en prison dans son œuvre littéraire. En 1968, après l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques, il explique devant les caméras de télévision d'Europe et d'Amérique ce qui vient de se passer. Il ose le faire malgré le danger que cela représente, malgré sa décision de continuer à vivre en Tchécoslovaquie, malgré une crise cardiaque qui vient de le terrasser. Élu président du Pen Club tchèque, il sera l'un des premiers écrivains tchèques à saluer publiquement le retour à la démocratie après la révolution de 1989 et poursuivra ses riches activités littéraires jusqu'à sa mort en 1991. Il laisse un certain nombre de livres, et notamment le roman essai « Le soleil froid », inspiré de son séjour dans les prisons staliniennes, la chronique « La guerre se poursuit », le roman « La tête de Lloyd », qui retrace sa vie nomade et cosmopolite, ainsi que le roman autobiographique « Au seuil de la nuit ». Il n'est pas facile de rédiger une biographie d'un homme qui a tellement voyagé et dont l'existence était tellement cosmopolite. C'est un travail qui dépasse largement les frontières d'un pays et Yolana Chopovova s'est vue obligée de chercher aussi dans des archives étrangères.
C'est dans cette catégorie de documents qu'il faut classer probablement aussi tout ce qu'a mis à ma disposition le peintre Rudolf Kundera. Je lui ai rendu visite à Cassie et il m'a donné la correspondance qu'il avait entretenue avec Jiří Mucha à partir de la fin des années 20, lorsque Rudolf Kundera avait commencé à assister Alfons Mucha lors de la création des toiles monumentales de l'épopée slave. C'est à cette époque qu'a commencé l'amitié entre Rudolf et Jiří. Rudolf m'a donné aussi beaucoup de photos et m'a permis d'entrer en contact avec d'autres personnes.
Rudolf m'a poskytl také spoustu fotografií a samozřejmě kontaktů na další lidi.
La biographe de Jiří Mucha ne passe pas sous silence même la période sombre des années 1950, lorsqu'il a été emprisonné et lorsqu'il a joué probablement un jeu dangereux avec la STB, police politique du régime communiste. Yolana Chopovova n'est pas seule à se demander pourquoi l'écrivain a accepté au début des années 1950 de collaborer avec la STB et pourquoi il n'a cherché à mettre fin à cette collaboration que relativement tard dans les années 1960. Toutes ces questions et toutes ces spéculations ne peuvent cependant rien changer à sa conviction que Jiří Mucha était un homme intègre.
No, musím říct, že jsem při zpracování těch materiálů a té knihy narazila na
spoustu. Je dois dire que le travail sur ce livre m'a apporté beaucoup de surprises, mais aucune de ces surprises ne m'a fait changer l'opinion que je m'étais faite de Yeji Mucha lors de nos rencontres personnelles. Ce travail m'a fait découvrir plutôt que Yeji Mucha était probablement l'unique homme ayant réussi à traverser le XXe siècle avec une conscience des faits et une sérénité incroyable. Ce XXe siècle qui était tellement rempli de tournants et de confusions.
Mělo tolik zvratů prostě a tolik zmatků.
Qui était donc Yeji Mucha? Que pouvons-nous dire après avoir lu sa biographie, de son caractère, de sa vie intérieure, de son rapport vis-à-vis du monde? Peut-on résumer une vie si riche, si agitée, si marquée par les vicissitudes de l'histoire? Yolana Chopovova a tenté de le faire tout en étant consciente qu'il n'était pas possible de saisir toutes les facettes de ce caractère compliqué.
No, určitě byl povahy dobrodružné, ale zároveň velmi rozvážné.
Il avait certainement une nature d'aventurier, et c'est peut-être un paradoxe, parce qu'il était d'une part aventurier, d'autre part un homme très judicieux. Je dirais qu'il était croyant, il croyait réussir certaines choses, et c'est pourquoi il les a réussies. Il croyait surmonter les injustices et les vexations dont il était l'objet, et il les a surmontées. Je pense donc que le principal trait de son caractère était la foi, non seulement la foi en lui-même, mais en l'homme en général. C'est le comédien Miloš Kopecký qui a dit une grande vérité sur lui, vérité avec laquelle je m'identifie complètement. Miloš Kopecký a dit, au milieu de beaucoup de gens, il était toujours seul.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire autour du livre sur Yeji Mucha que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová et Aleš Krupka. Guillaume Narguet vous donne rendez-vous dimanche pour le magazine musical. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur internet au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse cr@radio-cz. Bonne fin de week-end. Au revoir. Nasredano.
Radio.